Alors, vous savez, dans le club de l'été, notre expert gastronomie, c'est Olivier Pouls. Et depuis l'an dernier.
Oui, enfin, on est tous experts gastronomie. Olivier Pouls, il n'a rien inventé. Il vient, il pose son cul, il bouffe.
Oui, c'est vrai.
Ça, il est payé pour ça. En plus,
expert gastronomie.
Voulez,
oui, bon, on est tous un peu experts gastronomie. Hein, je veux dire.
Enfin, j'ai mangé plus que l'espresso quand même.
Oui. Moi, j'ai parlé.
Dernier, parce qu'elle bosse.
Mais comme l'an dernier, Olivier va nous proposer de faire un fact-checking culinaire. On passe en revue, en fait, les vrais faux de notre culture gastronomique. Jérôme Commandeur, le vin, vous aimez ça. Mais d'ailleurs, on va envoyer un petit extrait parce que vous ne maîtrisez pas toujours le vin.
Jean-Michel, sans déconner, elle est extraordinaire.
Je ne sais pas ce que t'as mis dedans, mais...
Ah ouais, elle est super.
Qu'est-ce que t'as mis dedans, Jean-Michel?
Le vin que t'as apporté, puis sinon, comme d'hab, orange, cannelle, sucre.
Quel vin t'as pris?
Le vin, là, dans la cuisine.
T'as pas pris le château Pétrus?
Ouais, c'est ça, ouais.
Château Pétrus pour faire une sangria, c'est un extrait de Barbecue, excellent film d'Éric Lavenne. Vraiment une comédie, moi, qui m'a fait hurler de rire. Je pense que je l'ai vu deux ou trois fois déjà.
Éric Lavenne, qui est un grand amateur de vin, qu'on avait reçu avec Laurent Marié dans la table des bons vivants, et qui connaît vraiment très très bien le sujet.
Ouais, le vin et la bouffe aussi. Ouais.
Et oui, et alors justement, votre vrai faux aujourd'hui, Olivier, c'est il paraît qu'on peut faire du rosé en mélangeant du blanc et du rouge, avec modération évidemment. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux?
Je peux répondre, moi je pense que c'est totalement faux.
Alors,
c'est totalement faux, à une exception près. Dans ce qu'on appelle les rosés classiques, les rosés tranquilles, c'est interdit. Même si un décret européen a tenté de l'autoriser il y a 3-4 ans, mais la France s'y est opposée, puisque dans nos traditions viticoles françaises, on ne peut pas le faire. Le vin rosé est fait du pressurage direct de raisins rouges, qui sont donc un petit peu tachés, enfin le vin est un petit peu taché par la peau du raisin, mais on ne mélange jamais de vin rouge avec du vin blanc pour faire du rosé. Il y a une exception. Et cette exception, c'est en champagne. La grande majorité des champagnes rosés que vous dégustez, c'est un mélange d'un vin blanc, fait avec des raisins blancs bien sûr, et une petite goutte, entre 5 et 10% de vin rouge dedans.
Voyez,
mais c'est la seule exception.
Vous voyez, donc c'était un faux.
Faux, mais pas complètement.
Mais pas complètement faux.
Ça tombe bien parce que c'est une question que je me posais en arrivant. Et je me suis dit, tiens, peut-on. Et Olivier m'a donné la
réponse. Et alors, est-ce que vous aimez le vin rosé? Parce que c'est le vin rosé, c'est vrai que c'est le symbole du vin estival, au bord du barbecue, justement. Est-ce que vous aimez ça ou pas?
J'en suis. Oui, j'aime bien, mais je vais pas me. C'est vrai que j'ai vraiment des copains qui sont fous de rosé. Il y a des gens qui sont dingues de rosé. Mais moi, non, normal.
Au premier rayon de soleil, on a l'impression que c'est comme des gremlins. Ils se transforment en buveurs de rosé.
Ah ouais, c'est fou. Ouais.
C'est la catégorie de vin qui a le vent en poupe. Hein. Depuis quelques années, le vin rosé se vend de mieux en mieux. Les rosés de Provence ont une cote incroyable.
Même aux États-Unis, d'ailleurs.
Même aux États-Unis, bien sûr. Alors, ça a un petit côté un peu pervers. C'est-à-dire qu'en Provence, on a parfois un peu tendance à délaisser les vins blancs ou rouges traditionnels au profit de faire du rosé, qui est un vin qui se vend plus facilement et puis qui se valorise maintenant extrêmement cher. Parfois un peu trop, d'ailleurs. Faites attention, il ne faut pas payer le rosé trop peu cher parce que c'est souvent pas très bon. Mais alors les rosés à la mode aujourd'hui qu'on trouve à 30, 40, 50, 80 ou 150 euros la bouteille sur certaines niches,
pas.
Franchement ça ne se justifie
Attention escroc,
est-ce qu'il y a des bons vins dans les Landes, Olivier Pouls?
Alors il y a peu de vins dans les Landes, il y a un chef qui s'appelle Jean Cousseau, que vous connaissez peut-être, qui est à Magesque, grand chef traditionnel, qui a quelques rangs de vignes au fond de son jardin. Il fait ce qu'on appelle d'ailleurs le vin des sables, mais c'est vrai que c'est pas vraiment un terroir qui est propice pour faire du vin. On va plutôt à Bordeaux dans ce cas pour boire du vin.
Alors, on devait être en ligne avec le chef Michel Guérard, mais apparemment, on a un petit problème de communication. Les lignes ne passent pas, mais c'est pas très grave.
C'est vrai que j'aurais vraiment voulu vous parler et parler avec ce chef qui est vraiment l'un des très grands chefs de l'histoire récente de la cuisine française, un monstre sacré. Et vous savez, dans les années 70, il est installé dans les Landes ou près de Gény depuis 1900, le début des années 70. Il a décroché sa première étoile en 71, je crois, sa troisième en 77. 40 ans de trois étoiles. Oula. Et c'est un chef qui a contribué aux côtés d'autres, hein, de Bocuse, de Sandrin, c'est de quelques monstres sacrés, à ce qu'on a appelé la nouvelle cuisine. Vous savez, cette nouvelle façon de voir la cuisine en étant un peu moins lourde, en enlevant la crème, en enlevant le beurre. C'est lui qui était à l'origine d'un concept qui a fait fureur dans les années 70 et 80, la cuisine minceur, la fameuse cuisine minceur de Michel Guérard. Dans beaucoup de maisons, il y avait ce fameux livre de cuisine,
oui, tout à fait,
voilà,
oui,
où on cuisait les légumes à la vapeur plutôt que les cuire dans des gros volumes d'eau, avec des sauces allégées, avec des vinaigrettes.
Moi, c'est pas du tout léger ce que vous avez dégusté là.
Oui, alors ce qu'on a dégusté, que vous nous avez d'ailleurs apporté, parce que c'est vrai que quand on parle de cuisine des Landes, spontanément on pense au canard gras. Alors le canard, c'est le magret. mais c'est aussi évidemment le foie gras que j'ai fait donc déguster tout à l'heure, et il m'en a redemandé 3 tartines à notre
oui, c'est ça, bah 7, 8.
Ouais. Et puis, il y avait quoi aussi à côté?
Il y a un pâté landais. Donc, c'est un pâté de porc avec une bonne dose de foie gras dedans. Et puis, il y a une autre spécialité landaise. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est le pastis landais.
C'est quoi ça, le pastis landais? Alors, j'imagine que ça n'a rien à voir avec le pastis qu'on boit à Marseille.
Non, mais je vais quand même vous raconter une petite anecdote amusante, parce que j'étais justement chez Jean Cousseau il y a quelques semaines, et après le petit déjeuner, il me fait visiter son jardin, et il me dit, après à la visite, on va aller se faire un bon pastis.
On est au petit déjeuner, on est d'accord.
Il est 9h30, il est en forme, le garçon. Bon, je suis poli, je dis pas non. Alors, heureusement, c'est évidemment pas le pastis à la marseillaise, la boisson telle qu'on la connaît, mais en fait, c'est un gâteau, une brioche. Qui est aromatisé à la fleur d'oranger, à la fleur d'oranger. On peut rajouter une petite goutte de rhum, mais enfin, il n'y a pas d'alcool dedans. Et c'est un délicieux gâteau spécialité landaise, le pastis landais. Si à manger et pas à boire.
Si quelqu'un veut nous en envoyer pour qu'on goûte, évidemment, on est tout à fait preneur. Notre adresse, c'est le 2 rue des Cévennes, dans le 15e arrondissement de Paris.
Et on mangera peut-être demain un bon pastis landais.
Merci beaucoup. Vous savez presque tout sur les Landes.